95.7 Saguenay, midi pile.
Sous le ciel très gris du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis hier soir, c'est officiellement lancé le Zoom Photo Festival qui revient année après année avec le World Press aussi qui se mêle à tout ça. Mais il y a plein d'expositions partout en ville sur le site Internet. C'est très, très bien indiqué d'ailleurs. Chaque endroit, comment ça fonctionne également, les expositions présentées.
La pulperie est un point central, évidemment. C'est un endroit qui est magnifique pour ça aussi. Moi, j'y vais souvent là, le samedi ou le dimanche matin. Au début de la journée, il n'y a pas beaucoup de monde. Je prends mon avant-midi pour ça. Je prends le temps de... Hey, c'est pas des blagues, là. Il y a des centaines et des centaines de photos. Puis je prends le temps de lire chaque descriptif de chaque photo. Puis c'est super quétaine ce que je vais dire. Mais moi, ça me fait voyager à des places que j'irai probablement jamais. Puis tu sais, qu'on parle d'enfants soldats, qu'on parle de ci ou de ça. Il y a des choses que j'irai pas me risquer à ma propre intégrité physique là-bas. Mais je le vois. Puis ça me permet, dans mon métier d'animateur radio, d'avoir au moins une certaine base sur certains sujets que j'aurais pas. Donc, c'est ma manière de voyager pas cher depuis que je suis dans la région. Quand j'avais découvert ça, ça tombait un peu un événement fétiche que j'ai à chaque année. Puis probablement que demain matin, très tôt, je vais me présenter là à première heure. Puis une sorte d'introspection. Puis quand je sors de là, je suis souvent un peu, je me sens un peu minable. Pas minable dans le genre, je suis pas beau puis je suis pas fin, mais dans le genre, finalement, je suis bien. Moi, ici, tu sais, on jase qu'à Chicoutimi, il fait fret ou qu'on a nos défauts puis qu'on a des problèmes de cible de ça, mais c'est rien comparativement à tout ce qu'on voit sur les murs pendant une couple de jours là-bas. Là.
Effectivement, en studio avec nous, Catalina Martin-Chicot, qui est photojournaliste un peu partout à travers le monde. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au Saguenay.
Merci de m'accueillir.
Est-ce que c'est une première pour vous, le passage ici dans la région au Québec ou...
Ah, je suis venue il y a 4 ans. J'ai exposé déjà au Festival Zoom. Donc du coup, je suis hyper contente de revenir pour les 10 ans.
Comment ça fonctionne le métier de photojournaliste? Est-ce que c'est indépendant puis vous prenez des mandats ici et là, vous voyagez à travers le monde ou encore vous travaillez pour des grands groupes de presse qui vous envoient, qui décident eux-mêmes des endroits où vous êtes dépêché?
Alors, il y a plusieurs cas de figure, mais ouais. Majoritairement, on est souvent freelance. Donc en fait, on se bouge tout seul. On a des agences qui distribuent nos images, qui nous aident à les vendre, qui sont l'intermédiaire entre nous et les groupes de presse. Mais sinon, on est un peu solitaire.
Mais justement, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va voir de vous ici à Saguenay dans les prochaines semaines?
Alors, le travail que j'expose ici, c'est un travail en Colombie. Ça s'appelle Colombie Renaître. Rebirth, ça dépend. En fait, c'est le travail sur le post-conflit en Colombie entre les FARC et le gouvernement colombien. Pour moi, les FARC ont existé. Je ne sais pas si ici on a entendu autant
c'est quoi
parler des FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie. C'est une révolution qui est née il y a 53 ans, enfin même plus longtemps, puisque 53 ans, c'est au moment où ils ont fait la paix. Donc elle est là, elle a été là toute ma vie. J'entendais parler dans les news, les FARC, c'était quand même pas détendre. Et bon, personne n'était tendre non plus en Colombie toutes ces années. Et là, j'entends parler de l'accord de paix entre les FARC et le gouvernement. Je me disais, putain, punaise, c'est
ça
historique.
Va, c'est pas grave, ça passe.
Je suis naturelle spontanément. Et ouais, je me disais, c'est historique quand même. Il faut que je documente ce qui est en train de se passer en Colombie. Mais après, je savais pas trop comment documenter la paix, quoi. Parce que l'air de rien, hein, la guerre, c'est tout de suite, on sait de quoi on parle. La paix visuelle. Visuellement, c'est beaucoup plus compliqué.
Et la paix, ça fait-tu des bonnes photos?
Hein?
Ça fait-tu des bonnes photos? La paix, la guerre, ça fait des bonnes photos, mais la paix...
Mais la paix, exactement. Comment on comprend que c'est la paix, que c'est pas juste la vie normale? Comment on comprend qu'il y a eu une guerre avant? Donc du coup, j'ai trouvé l'angle, j'ai appris qu'il y avait 40% des guerrilleros qui étaient des guerrilleras. Et donc du coup, déjà, je savais pas qu'il y avait autant de femmes guerrières dans la jungle. Et au moment de la signature de paix, toutes ces femmes sont tombées enceintes en même temps, parce que les femmes, elles étaient interdites de maternité pendant la guérilla. C'est-à-dire que normalement, on prend des guerriers, on pense pas à cette idée que ouais. Pendant que t'es guerrier, tu peux tomber enceinte en étant une femme. Un homme non, mais oui une femme. Donc les phares qui prenaient les hommes et les femmes comme guerriers, ils disaient vous êtes égaux. Vous battez de la même manière les armes, les hommes ils font la cuisine comme les femmes elles prennent les armes comme les hommes, mais il y a une différence quand même, c'est que les femmes elles tombent enceintes et pas les hommes. Donc malgré une piqûre contraceptive par une infirmière, il y avait beaucoup de femmes qui tombaient enceintes, et que donc du coup ça voulait dire des avortements forcés, des fois dans des grossesses super avancées, ou alors elles menaient jusqu'au bout leur grossesse, malgré les bombardements, et marcher 8 heures par jour, etc. Mais elle devait abandonner les enfants à la naissance. Bref, c'était quand même des conditions un peu plus dures que les hommes à ce moment-là. Et la signature de paix a amené la naissance de tous ces enfants de la paix, quoi. Et je me suis dit que ça, ça allait être mon angle d'entrée pour raconter le post-conflit à travers ces bébés. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Renaître, quoi, parce que c'est à travers la naissance de ces enfants de la paix, c'est aussi la renaissance de parents dans une vie civile qu'ils n'ont pas connue de toute leur vie, puisqu'ils ont vécu dans la jungle la plupart de leur vie, quoi.
Effectivement, vous parlez de la Colombie. La majorité des gens qui nous écoutent probablement n'ont pas voyagé en Colombie. Quoique je sais qu'on a un auditeur régulier qui demeure quelques mois en Colombie puis nous communique régulièrement et tout ça. Mais il y a beaucoup de monde qui nous écoute qui ont connu la Colombie par Narcos de Netflix sur Pablo Escobar. On doit vous en parler quand même régulièrement. Puis on aborde un petit peu la question des FARC dedans, mais c'est pas le principal. Est-ce que c'est la paix totale en Colombie ou encore ce qu'on voit dans cette série-là va toujours perdurer? La notion de la drogue, de la guerre qui se crée autour de ça aussi?
Alors du coup, on n'est plus du tout au temps de Pablo Escobar parce que c'était le début du narcotrafic et ça avait fait... il y avait une quantité d'argent incroyable à ce moment-là. Mais bon, quand même, la Colombie, c'est quand même le pays du narcotrafic. Et le narcotrafic, maintenant, est beaucoup plus discret. Il est plus immiscé dans la société. Il y a beaucoup de blanchiment dans des grands groupes. Les FARC étaient liés au narcotrafic puisqu'ils prélevaient un pourcentage de la vente des agriculteurs de coca aux narcotrafiquants. Ils prélevaient un pourcentage d'impôts révolutionnaires. Et c'est avec ça qu'et ils ont pu s'acheter des armes et autre chose. Maintenant, les FARC, en se retirant de la guerre, ils sont aussi retirés de ce marché.
Okay.
Mais du coup, il y a tous les autres groupes armés, paramilitaires, ELN, donc c'est des groupes armés d'extrême droite ou d'extrême gauche, des ennemis, qui trouvent qu'il y a quand même un marché juteux. Et donc du coup... la Colombie, malgré l'accord de paix,
mais avez-vous l'impression,
est compliqué.
Avez-vous l'impression qu'à un moment donné, ce sera un cycle qui va recommencer, donc ce sera à refaire éventuellement? Le chaos va se réinstaller. Dès qu'un groupe se retire d'un marché, comme vous dites, qui est juteux, soit la cocaïne, il y en a un autre qui arrive et à ce moment-là, ça recréera des tensions qui vont croître jusqu'à temps qu'il y aura un éclatement.
Pour l'instant, j'ai l'impression que ça redevient un peu explosif, oui. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'entre l'accord de paix qui a été négocié avec un président, il y a eu un nouveau président maintenant qui est venu en Colombie, qui n'a jamais été très copain avec les FARC. Donc du coup, il y a plein de points de l'accord de paix qui n'ont pas été suivis jusqu'au bout, alors qu'il fait qu'il y a eu des tensions, les FARC se sont sentis trahis. Il y a un mois, ils ont annoncé que certains FARC reprenaient les armes, que donc l'accord de paix était une erreur. Donc effectivement, on est dans une zone de transition où la paix, quand moi j'ai été le premier voyage en 2017, était un espoir incroyable pour ce pays. En 2018, il y avait un peu plus de doutes. Et puis maintenant, les FARC, il y a 150 FARC qui ont été assassinés depuis l'accord de paix. Ils sont quand même menacés. Ils n'ont pas forcément de travail. Ils essayent de s'insérer dans la société. C'est pas forcément évident. Le gouvernement les aide avec une indemnité, mais elle va s'arrêter. Donc on est dans une période de transition entre les groupes armés et la déception des FARC où, effectivement, j'ai l'impression que ça peut être un peu plus explosif dans les années à venir. Mais
ça pourrait être une destination quasiment infinie pour une photojournaliste comme vous. Est-ce que déjà c'est prévu à un certain moment de se dire « Bon, ben là, on a fait le tour de la Colombie, on va aller visiter un autre pays » parce que vous n'avez fait d'autres avant, évidemment.
C'est vrai que la Colombie est un pays où il y a beaucoup d'histoires à raconter, donc c'est passionnant à la fois tellement c'est complexe. Donc c'est vrai que quand moi j'arrive dans un pays et qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter qui n'ont pas été racontées, je me sens un peu envahie par cette mission de devoir raconter. Ça ne m'empêche pas de faire d'autres pays. Il y a deux semaines, j'étais en Équateur, en Amazonie, je fais d'autres sujets.
Vous avez fait le Yémen il y a une couple d'années, ça devait être intense aussi?
Oui, le Yémen, il y a 2 ans, c'était intense parce que là, le Yémen traverse une guerre et une crise humanitaire incroyable. Mais le Yémen, j'ai commencé en 2007 quand le Yémen était un pays beaucoup plus tranquille, beaucoup moins violent, où Al-Qaïda n'était pas là, où il n'y avait pas la guerre. On pouvait circuler. Donc c'était un pays qui était fascinant d'histoires à raconter parce que personne ne les racontait. Et moi-même, j'étais curieuse de savoir à quoi ressemblait le Yémen.
Mais encore, si on peut avoir des idées préconçues pour la Colombie, pour le Yémen. Vous êtes allée en tant que femme, vous êtes une femme. C'était pas risqué à la base, c'était pas un échelon de difficulté supplémentaire d'aller là-bas en tant que femme?
Au Yémen, vous voulez dire?
Les deux places?
Oui. Ben, disons qu'en tant que femme, il faut y aller, il faut respecter la culture locale. Donc, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut se voiler, il faut respecter certaines choses, quoi. Après.
Mais est-ce qu'on vous respectait en tant que journaliste femme là-bas dans ces pays-là?
Ben, disons que oui. En fait, comme moi, j'arrive sans jugement, avec une certaine authenticité, et je les juge pas, ils me jugent pas. Et donc, du coup, il y a un bon échange. Je pense que c'est très important d'arriver sans avoir notre vérité d'occidentale, qu'on détient la vérité, mais juste arriver vraiment l'esprit le plus ouvert possible pour accueillir ce que les gens peuvent vous offrir sans penser ce que tu viens y chercher. Pour moi, c'est très important dans ma démarche.
En Colombie, vous êtes allé faire du photojournaliste sur des femmes combattantes. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile, c'est plus tough avoir accès à ces femmes-là ou c'est plus simple?
En fait, en Colombie, autant un homme ou une femme, ils peuvent avoir les mêmes accès aux hommes ou aux femmes. Au Yémen, c'est vrai qu'en étant femme journaliste, j'ai accès aux histoires de femmes et j'ai accès aux histoires des hommes. Donc pour moi, c'est une force incroyable dans des pays du Moyen-Orient ou l'Iran ou des choses comme ça, où effectivement, je peux raconter des histoires de femmes. Où, pour un homme, c'est beaucoup plus difficile d'accès. En Colombie, c'est pas ce problème-là culturel. Mais c'est vrai que du coup, en étant une femme, pour ce sujet-là sur la maternité, sur les avortements, j'ai pu dormir dans le lit des guerrières ou à côté d'elles dans leur chambre et avoir cette espèce de proximité, d'intimité qu'on peut avoir entre filles sur ces questions-là qui finalement ont été un avantage aussi pour moi.
Est-ce qu'il y a des angles à trouver n'importe où dans le monde? Parce que c'est fascinant ce que vous nous dites là, puis c'est dans des pays où ça a déjà été difficile, ou que ça allait mal, maintenant ça va un petit peu mieux, ou des temps de guerre, etc. Est-ce que n'importe où vous seriez posté dans le monde, vous réussiriez à trouver des choses intéressantes pour faire des photo-reportages?
Mais t'as raison. C'est sûr que les histoires ne sont pas qu'à l'autre bout du monde, elles sont même en bas de la maison. Je travaille sur des histoires en France. J'aimerais d'ailleurs développer ça plus, mais on est à la rencontre de gens passionnés, de gens originaux, des histoires dingues, et elles sont en bas de la maison. Il n'y a pas si longtemps, j'ai travaillé sur les derniers habitants du Mont-Saint-Michel en Bretagne. Et c'était tout aussi passionnant que d'aller à l'autre bout de la terre.
Je vous donne une semaine, toutes dépenses payées, à Saguenay, avec le but d'y aller à votre guise, faire du photojournaliste à Saguenay. Vous faites quoi comme topo?
Ah ben, je connais pas encore assez bien.
Vous avez même pas d'idée préconçue ou depuis que vous êtes débarqué la première ou la deuxième fois. Mais attendez, il y a pas quelque chose qui vous chicote?
Peut-être la pêche là sur la rivière.
C'est la glace.
Sur la glace, quand vous faites des trous dans la glace, vous installez une petite maison et tout. Ça me donnera envie de suivre, par exemple.
À l'ère des médias qui sont de plus en plus numériques et tout ça, comment vous voyez votre métier pour l'avenir? Est-ce qu'il y a davantage à développer justement avec la dimension du numérique ou?
Ouais, il y a beaucoup de choses à développer au niveau technique et au niveau diffusion, pouvoir toucher beaucoup plus de gens que peut-être que dans des magazines ou dans la presse écrite. Le problème pour nous, c'est l'économie qui va avec. C'est pas encore développé où on puisse mettre nos photos sur Internet. Tout est tellement gratuit et tellement immédiat que c'est compliqué pour nous. Il y a pas
pour tirer de l'argent.
Il faut quand même que maintenant c'est difficile déjà de produire des histoires, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui puissent financer ton billet d'avion, le billet d'avion du journaliste, un traducteur éventuellement, un chauffeur. Ça coûte cher. Et donc du coup, on finance de moins en moins ça. Donc nous, il faut qu'on le prenne de notre propre argent. Et après, dans la vente, on rembourse à peine les frais. Alors si c'est sur le web, il y aura encore moins d'argent pour l'instant. En tout cas, chez nous, ça se développe, mais pas tellement l'économie derrière.
Mais contrairement à du papier, à du journal, la qualité des photos et l'espace disponible, ça peut être quasiment infini.
Eh oui, exactement. Et puis surtout, ça peut toucher tellement de gens, tellement ça se partage, qu'évidemment, au niveau diffusion, c'est extraordinaire.
C'est drôle qu'on parle de ça, parce que j'aurais envie de vous poser la question en terminant, la question suivante. Si jamais il y avait, que ce soit un jeune homme, une jeune femme de 15, 16, 17, 18 ans, qui voudrait faire ce métier-là, vous lui diriez quoi? À l'heure où on en est là présentement?
J'interviens dans des écoles et je dis qu'il faut vraiment avoir ça dans la peau. Il faut que si on n'a pas ça dans la peau, c'est pas la peine de faire ça, parce que ça demande énormément d'énergie. Il faut pas baisser les bras. Il va falloir se relever. Et c'est une vraie lutte, quoi. Donc il faut vraiment qu'on sente que c'est ça ou rien dans la vie, quoi.
Ok.
Mais par contre, si tu as dans la peau, ça peut être le plus beau métier du monde aussi, quoi. On vit des choses extraordinaires.
Catalina Martin-Chicot, merci beaucoup d'être passée en studio. On va inviter les gens donc à aller visiter le Zoom Photo Festival, votre exposition à la Pulperie, mais également il y a plein d'autres endroits à visiter qui sont exposés sur le site. Merci.
Merci à vous.
Bon passage au Saguenay.
95.7 Kick. Saguenay, midi pile. On revient dans quelques minutes. À Kick 95.7, c'est légende du rock. Les meilleures bandes. Les meilleurs tours de rock.